Oh là 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 là, mais y a tellement de membres, mais je vais jamais y arriver.
Allez, c'est l'heure, en piste la vedette.
Non, non, c'est impossible, on annule tout, je suis pas prête, ils vont me détester.
Normalement, c'est le moment où, en tant que manager, je devrais te dire à quel point t'es génial, que t'as super bien travaillé et tout ça, mais on va être clair. Tu veux que je te rappelle combien nous a coûté ta dernière cargaison de robes à dentelle? Et aussi que tu m'as cassé les noix pour que j'abandonne la milice privée et que je devienne ton agent?
Non, mais c'était pour un petit délire, jouer dans une petite convention de province.
Ah bah écoute, business first. Tu crois que t'as signé pour un temps partiel ou quoi là? Tu voulais être une starlette, alors on fait selon mes règles. Tu te souviens de ton rêve? Devenir une idole, faire le tour du monde, voir les étoiles dans les yeux de tes fans? Eh bien c'est exactement ce qui t'attend dès que tu auras franchi cette porte.
Oui, 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 c'est ça. Je suis né pour ça.
Voilà, c'est ça ma championne, prête à tous les sacrifices. Tu es Miku maintenant. Rencontre de fans, concerts dans les salles les plus prestigieuses, émissions télé, dédicaces privées, soirées escortes.
Soirées escortes?
T'auras un programme de superstar, je vais me faire un max de thunes et je t'achèterai tous les vêtements que tu veux.
Yatta! Sore wa ikimasu yo!
Et je te ferai tellement bosser que tu me supplieras de t'achever.
Quoi?
Le sourire surtout, hein, et va m'éblouir tous ces otaks.
Le samouraï et la soubrette. Épisode 20. Oshinoko.
Bienvenue dans cette 20e épisode. Le 20e, c'est beau quand même.
20e, et d'ailleurs, à ce propos, vu que l'été est passé, nous avons aussi d'ores et déjà signé la 5e bougie
on
du
est...
podcast.
Oui, c'est ça. En tout cas, on attaque la 5e année. C'est ça.
Non, on attaque la 6e
année. La 6e, tu te tais. bienvenue dans...
20e épisode.
20e épisode, tada. 20e épisode donc du podcast Le Samouraï et la Soubrette, consacré cette fois-ci à une série qui s'appelle Oshinoko. Oshinoko qui est un manga seinen de Aka Akasaka. Et de Mengo, est dessiné par Mengo Yokoyari, commencé en avril 2020 et qui est toujours en cours. Et là, on va surtout parler de la première saison qui a été diffusée entre avril et juin 2023, une saison de 11 épisodes, produite par le studio Doga Kobo, studio en fait qui a été créé en 2007 et qui n'avait pas de série vraiment marquante par la qualité ou par l'histoire jusqu'à présent. Et on le verra, ça a pas mal changé depuis. C'est une série qui a été diffusée en simulcast par ADN et qui est toujours disponible uniquement chez eux. ADN qui avait aussi produit une version française.
On veut des Blu-ray maintenant.
C'est vrai que c'est vrai que la saison 1, elle a de ah là non ouais donc on peut y aller hein. C'est
ils ont... ah oui, oui oui
c'était 6 mois après la chronologie je sais plus.
Ah, je l'ai en tête pour le cinéma, je sais que ouais. Le cinéma c'est déjà super court, c'est 3 mois.
Ouais, donc, ouais, mais la série, ça doit pas être beaucoup plus long normalement.
Ouais, donc bon, bah, à vérifier.
Jean, est-ce que tu peux nous présenter le concept de la série?
Ouais, alors, le concept de la série, bon, sans spoil, même si bon, les événements que j'ai en tête se passent vraiment au tout début de la série, mais en gros, ça gravite autour de personnages qui sont dans le showbiz et qui eux-mêmes gravitent à la base autour d'une idol en particulier. Et donc, ils vont mettre un pied là-dedans et. Grosso modo, c'est pour nous présenter cet univers, l'envers du décor, les travers de cette industrie un peu dégueulasse, avec une sombre histoire de meurtre pour couronner le tout.
C'est ça. Donc, globalement, l'industrie du divertissement au Japon, comment ça fonctionne, et derrière, pour un fil conducteur qui sera une histoire de meurtre à résoudre.
Voilà, une enquête. Bon, on va attaquer avec nos petites catégories habituelles. Moi, je voulais parler vite fait avant que tu nous détailles en plus de points sur la partie visuelle. En ayant vu donc quelques séries récemment, et c'est vrai que j'avais un peu moins regardé d'animation japonaise ces derniers, enfin on va dire dans les derniers 12 mois qui s'étaient écoulés, et j'ai repris un petit peu plus ces derniers temps.
Je l'ai obligé.
Oh, pitié, sauvez-moi, j'ai déjà.
Ça va, vu ce que je te fais.
J'ai déjà appelé à l'aide.
Je te montre des trucs sympas, c'est bon quoi.
C'est pas la première fois que j'appelle à l'aide dans un speech. Hein.
J'aime bien cette tendance, continuons.
En fait, ouais, je sais pas si on peut parler de standards pour toutes les séries, mais disons qu'on a quand même ces derniers temps des séries qui relèvent les standards vers des nouveaux niveaux en termes de qualité visuelle. Et c'est difficile de passer à côté quand on voit voilà, des séries comme Oshinoko ou d'autres dont on va parler bientôt. Et donc, ben, je pense que la différence se voit pas mal entre ce que voilà, j'ai pu regarder en 2024 et ce que j'ai pu regarder il y a quelques années, quoi.
Oui, après, voilà, je pense que pour un peu préciser ton discours, il y aura toujours, je pense, une différence entre des séries entre guillemets plus standards. Où on voit que les moyens de production sont relativement faibles, et puis des grosses séries comme ça, on voit que cette série-là, même d'un point de vue promotion, elle a eu quand même un budget largement supérieur à d'autres séries qui sont sorties exactement en même temps. Mais par contre, le truc qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que maintenant, on a, même pour les grosses séries, on se dit on a des exigences, que ce soit les spectateurs, mais aussi en fait les studios, ont des exigences de qualité beaucoup plus hautes qu'avant. C'est vrai.
Ouais.
Globalement, oui, la série elle est très propre hein, d'un point de vue visuel, que ce soit au niveau, du chara-design. Les décors, je les trouve pas exceptionnels, mais ils sont pour le coup très propres. Mais surtout, l'animation, globalement, est assez fluide. Hein. On a vu d'autres productions, notamment de Dogakobo auparavant, où le nombre d'images par seconde était... divisé par deux, voire par trois, tranquillement.
Je vois pas de quoi tu parles.
Shikimori, si tu nous entends.
Non, non.
mais clairement, voilà, il y en a une série qui est vraiment très, très propre là-dessus. Il y a quand même un super travail sur l'éclat des yeux. Alors, c'est très important, vu que c'était un des attributs principaux, justement, de l'idol auquel de tout...
autour de laquelle tout le monde gravite, ouais.
Voilà.
Ah non, mais clairement, on pourrait dire qu'en termes de budget, il y a le personnage sans ses yeux et chaque œil est un personnage séparé.
C'est assez marrant après que tu retrouves justement une de ces caractéristiques-là dans les yeux de certains personnages.
Ouais, c'est
voilà. C'est plutôt bien.
Attends,
fait.
Avec le boulot que ça représentait, ils allaient quand même pas l'abandonner.
C'est clair. Et pour le coup, en fait, et ce qui est étonnant pour une série d'idol, c'est qu'en général, le moment où on met toute la tude, c'est on va mettre plein de séquences de danse et de chant et que ça pète dans tous les sens et tout ça. Là, en fait, ça arrive effectivement, mais uniquement dans le premier épisode. Un premier épisode un peu spécial, vu qu'il fait une heure et demie, où on a effectivement notamment une scène de chant et de danse qui pète vraiment grave la classe, qui est quasiment l'intro de la série d'ailleurs. Et après, ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme là-dessus. Lorsqu'on va avoir des moments de bravoure, c'est plus des scènes de tension dramatique plutôt que du côté tiens on va vous mettre de l'animation qui en fout plein la
vue. Ouais, ça découle du fait que l'animé est là pour nous présenter l'envers du décor en fait.
C'est ça, ouais.
Mais forcément, il faut bien avoir des moments un peu sur scène,
oui.
Mais c'est quand même pas le gros du gâteau quoi.
Mais c'est ça qui est intéressant et qui change de perspective par rapport à d'autres séries qui pourraient aborder justement le côté showbiz de façon un peu édulcorée comme on l'a vu auparavant.
Et bah ouais, c'est tout l'intérêt de cette série. Ouais.
Au niveau de l'audio, bon alors oui, les musiques d'Idol sont très bien faites, ça aurait été un comble quand même que pour une série sur le domaine ce soit quand même tout pourri. Alors je suis toujours aussi peu fan de musique d'Idol, mais là force est de constater que elles sont bien faites, efficaces et surtout crédibles. En fait on se dit que oui, un groupe d'Idol pourrait avoir ce type de musique là et que plein de gens les suivent, etc. Un truc que j'ai beaucoup apprécié pour le coup, c'est le générique de début.
L'opening
qui a en fait il a par rapport à de la musique d'idol assez classique, il a un côté plus orienté K-pop, c'est-à-dire avec un côté plus hip-hop, plus agressif,
presque rap. Hein.
Oui, bah carrément, oui, carrément rap. En fait, beaucoup plus ricain hein, globalement, et c'est assez dans l'air du temps. Vu que c'est finalement ce que propose pas mal de groupes de K-pop en ce moment, et ça marche extrêmement bien. Et d'ailleurs,
il est accrocheur.
C'est un des génériques pour le coup qui est encore le plus écouté hors série.
Oui, il est très populaire.
Ouais, pour le coup, bonne
mérité.
Bonne cam est méritée.
Ouais, clairement. Je rajouterais que comme info sur l'audio, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de pistes dans cette OST. On a regardé un peu, on a fait une recherche musique. En tout cas, ce qu'on a trouvé facilement sur YouTube, il y avait 62 pistes. C'est pas dit qu'il y ait tout, mais ça fait quand même déjà pas mal.
Et pour la première saison. Hein.
Ouais, et bon, bah franchement, elles sont pas mal, mais elles se font un peu oublier. Je pense que c'est quand même presque en fait un critère finalement, c'est qu'il faut que ça s'efface par rapport aux chansons d'Idol, sinon ça serait problématique. Mais du coup, voilà, on reste sur des musiques qui sont plutôt ambiance pour accompagner les scènes et évoluer en fonction de si c'est de la tension dramatique, des moments du quotidien plutôt rigolos, des moments de mélancolie, etc., etc. Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de... À part un petit leitmotiv qu'on retrouve entre quelques pistes, c'est vrai qu'il y a pas... Enfin, c'est plutôt oubliable, quoi, finalement.
Et c'est assez marrant qu'on trouve pas mal de jingles aussi, dû au fait qu'il y a pas mal de promotions, pas mal de trucs comme ça. Et souvent, dans ce genre de série, les jingles ne se retrouvent pas dans la BO, là. Ils sont
on les
dedans,
a trouvés, en tout, cas, en tout cas, sur YouTube. Ouais. Du côté narration, maintenant, parler rapidement du concept. Donc, on a cette enquête qui est le fil conducteur, en tout cas, à la base. Donc c'est la carotte, hein, clairement, c'est notre façon d'entrer dans cet univers-là, parce que clairement, y a un personnage qui va essayer de résoudre ça, et du coup, tout son chemin découle de ça. Et donc, je trouve ça intéressant comme idée, je trouve que ça marche bien, c'est plutôt pas mal. Il y a un petit bémol que, je vais pas dire que j'anticipe, mais que je crains plutôt, c'est que ça pourrait vite traîner en longueur, c'est-à-dire que ça pourrait finir en enchaînement de quêtes secondaires, en enchaînement d'arc qui pourrait s'étirer à l'infini en mode ok, toi t'as une enquête, tu voudrais savoir telle info, moi je l'ai pas mais je connais quelqu'un qui l'a, vas-y bosse pour moi sur mon showbiz là, faut que ça marche bien, si à l'audima c'est bon, ok, on se fait un petit resto, on en parle, puis là au resto je vais te dire ouais en fait j'ai le fils du cousin éloigné de ma mère par mon oncle par alliance qui connaît un gars qui machin. Vas-y, va bosser pour lui sur sa prochaine série télé. Puis si vous entendez bien, il aura sûrement plein de trucs à te raconter. Puis ce jour-là, et puis quand il va parler à ce mec-là, je sens que ce sera le truc de ah ouais, ce soir-là, j'étais là. Mais en fait, j'étais aux chiottes à ce moment-là, et du coup, j'ai pas vu.
Oui,
par contre, je connais un mec qui était au bar à ce moment-là, qui servait les boissons, et peut-être que lui pourra t'aider. Voilà. Moi, c'est un peu ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur d'avoir un truc en 10 saisons qui traîne en longueur parce qu'on veut pas résoudre l'enquête, parce qu'on veut continuer, quoi.
Je pense que si on est un peu cynique, en fait, on a un schéma où tu as le héros pour son enquête. Effectivement, le héros pour son enquête, il doit enquêter sur telle personne. Pour enquêter sur telle personne, il doit aller sur telle production. Sur telle production, il va rencontrer un nouveau membre du RM. Allô, viens. La production est pourrie, j'ai pas d'infos, mais bon, c'est pas grave. On m'a dit qu'il y avait ma princesse était dans un autre château. Et ben c'est reparti. et on recommence.
Moi j'ai envie de dire
c'est une repeat. En tout cas c'était un peu schéma là qu'on voyait déjà. En gros, alors on est médisant parce que sur la première saison ça se ne produit que deux fois entre guillemets. S'il y a ce
ouais,
même schéma deux fois.
On sent que ça. En fait ça.
Mais c'est un schéma où tu dis ça pourrait être facile de reproduire.
Il y a le terreau.
Ouais.
Du coup j'ai envie de dire The Princess is a lie.
Effectivement. Mais bon c'est après moi ce que je te disais aussi quand on préparait c'est que au final, moi, je sens que le côté enquête, et des fois, je le sens un peu comme un prétexte et que c'est pas la résolution de l'enquête qui me maintient dans mon intérêt de regarder la série.
Ouais. Moi, je pense que du coup, si vraiment c'est leur truc, c'est de dire ça, en fait, ça nous emmerde un peu. C'était le point d'entrée, mais on va le laisser de côté. Faut qu'ils trouvent un moyen de la résoudre ou de la semi-résoudre. Quitte, en fait, que tu crois l'avoir résolu, il y a des rebondissements ou quelque chose, ou ça révèle un truc encore pire, je sais pas. Mais trouver un moyen de faire en sorte de ne pas faire le truc en mode « Allons par là, il y a un point d'interrogation sur ma minimap, et puis hop, tu fais une nouvelle saison, et ainsi de suite. » Je pense qu'il faut qu'ils trouvent un moyen d'embrayer sur quelque chose. Quoi.
Ouais, on verra ça. Hein. Je sais que toi, tu as commencé à regarder la saison 2, on va voir. Et on en parlera très certainement dans un prochain épisode, notamment sûrement pour les 25 ans de l'émission.
alors 25 ans, par an, je ne sais pas si tu seras encore... En mesure de parler, toi.
Ok,
tu vois,
alors passons à la narration.
Ah ouais, mais d'accord. En fait, il n'y a pas besoin d'attendre les 25 ans du podcast pour que tu sois plus apte, parce que là, la narration, on était dessus, en fait. C'est aux thématiques qu'il faut passer.
Je te laisse y aller. Ah bah non, c'est à mon tour.
C'est à ton tour.
Écoute papy parler. Et puis tais-toi un peu.
Oui, papy, c'est bien. Allez, à la sieste.
Le principal intérêt pour le coup de cette série, c'est pas uniquement les dessous du showbiz, même s'il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui sont dites dessus, notamment la partie, la mainmise totale en fait des agences et des agents sur les artistes, d'autant plus que ces artistes pour la plupart sont mineurs. Notamment, il y a les personnages que l'on suit sont dans un lycée spécifique pour jeunes artistes. Et en gros, on voit que leur vie, elle est rythmée par les auditions, par la mise en concurrence, etc.
Clairement, c'est une structure où, en fait, ils ont leur taf et ils assistent au cours qu'ils peuvent, quoi.
C'est ça. C'est vraiment ça, avec un côté assez hypocrite de « Non, mais on a tous une vie normale. mais mon cul.
Oui, oui, oui.
C'est ça. Et puis, le côté aussi, le dévouement et l'engagement total qui est demandé, que ce soit surtout aux idoles. Déjà, pas beaucoup aux acteurs, mais encore plus aux idoles, parce que par rapport aux idoles, il y a le côté aussi... Il y a une relation à construire avec le public qui est absolument malsaine de base. En tout cas, le degré d'engagement qui est demandé à des artistes aussi jeunes est absolument malsain. Et pourtant, c'est non seulement c'est le cœur du business, mais en plus c'est vraiment ce qui est demandé et c'est ce que chaque jeune personne qui rentre là-dedans, ils en sont conscients. Et les pots cassés, c'est normal de les payer.
Ouais, quoi. Mais ils adhèrent, hein, en fait. Hein. Ils adhèrent.
Et c'est assez terrifiant en soi. Toujours sur la partie idol, en fait, il y a le fait aussi qu'il y a comment on fait la promotion d'un nouveau groupe d'idol, vu qu'il y a énormément de concurrence, que les gens ne regardent plus la télé ou n'achètent pas vraiment de revues spécialisées. Et que on est en 2024, donc maintenant c'est plutôt sur Internet que les choses se font.
Sur Inter quoi ?
Ouais, sur Internet exactement. Et il y a des relais de promotion qui sont différents, que ça soit que sur YouTube ou en tout cas des réseaux de diffusion de vidéos où on va être obligé de collaborer avec des YouTubeurs plus connus, comme pour faire du fit and fun.
Du fit and fun ?
Non. Non, on avait dit... Non, j'avais rien dit, c'est vrai, pardon. J'avais rien dit, donc tu l'as fait, tant pis. Mais il y a la même chose, en fait, sur la construction de télé-réalité. Par exemple, un truc type, nous, on a les Marseillais, Ibiza, ce genre de truc. On montre une télé-réalité aussi dans Oshinoko. Pour le coup, cette télé-réalité, c'est pas des gens au hasard qui sont pris. On va prendre déjà des acteurs... Et on va prendre aussi des gens, s'ils ne sont pas acteurs, au moins qui ont une présence sur les réseaux très forte pour favoriser en fait, le retour sur investissement des producteurs. Il sera pareil pour les séries.
Ce qui est marrant, j'y pensais quand on en parlait tout à l'heure en off, c'est ce truc-là, là, le recrutement de l'équipe, entre guillemets. Franchement, ça fait très genre Ocean's Eleven ou un truc du genre où le mec il dit « Ok, je veux faire une télé-réalité comme je veux faire un cambriolage. J'ai besoin de tel profil, tel profil, tel profil. »
En même temps, c'est une sorte de braquage, voilà, on va pas se mentir.
Braquage des réseaux, quoi. Donc, ok, des mineurs, ce sera toi. Toi, tu seras le beau gosse, beau parleur.
Voilà. Toi, tu seras la jeune mignonne, la jeune mignonne,
mais qui attire l'attention.
Toi, tu seras le pot de fleurs. Toi, tu seras le quota fun. Toi, tu seras le comic relief. Enfin, même chose.
Ouais, voilà.
C'est le comic relief.
Même
quoi.
Combat, quoi.
C'est ça.
Ouais, pour rebondir là-dessus, du coup, on suit aussi un truc qu'on n'a pas forcément en tête pour les artistes, mais c'est qu'en fait, ils n'ont pas forcément le choix du tracé, quoi. Surtout à cet âge-là, quand ils démarrent, etc. Ils sont un peu obligés de suivre les directives de leurs agents et les contrats qu'ils arrivent à choper et à signer. Du coup, c'est marrant parce que c'est illustré aussi dans Oshinoko que des fois, tu as des prestations qui sont limites. Bah, en fait, tu dois remplir un taf parce que c'est ce qu'il faut, quoi. Sinon, si tu refuses ou que tu fais de la merde, tu vas te faire une réputation dégueulasse.
Et puis, tes agents ne vont pas vouloir bosser pour toi parce que globalement, toi, tes agents, ils te placent. Ils te disent « Je viens de placer sur ce truc super bien, mais avant, il faut que tu m'aides sur cette production pourrie où je ne peux pas passer. »
Et du coup, ils se retrouvent avec des prestations en fait, qui sont néfastes pour le CV où tu dis «
Ouais, c'est personnage des canards. »
Ouais, voilà. Ça, tu dis « Ce taf-là, en fait, bon, bah, faut que je le fasse. Mais en fait, j'aurais préféré pas l'avoir sur mon CV, quoi. » Et bon, typiquement, là, c'est l'illustration d'un personnage qui a quand même déjà des compétences en acting qui sont importantes, même pour son âge, et qui se retrouve entouré de profils qui n'ont pas du tout ce talent-là. Mais c'est une série.
Ils sont beaux.
Il n'y a pas trop d'ambition sur l'acting. Ils sont mignons. Ça vise un public qui, a priori, ne serait pas très exigeant là-dessus. Et du coup, c'est un peu triste pour le personnage, mais bon, c'est comme ça.
Sachant qu'en plus, c'est assez marrant, la série se fait crucifier à cause de du niveau de jeu de la plupart des acteurs. Et que les producteurs sont en mode « on s'en tape ». Le truc, c'était d'avoir juste le créneau et puis les pubs qui vont avec.
Ouais, ouais. Là, je précise, quand tu dis série, c'est la série dans l'animé. Hein. La série dont on... Voilà, parce que ce soit pas mal compris.
Excuse-moi.
Ouais. Voilà, cette série sur laquelle ce personnage est obligé de travailler, elle se fait descendre parce que les gens jouent mal, quoi, voilà. Et elle est là en mode « Ouais, de toute façon... » Et en même temps, le personnage ne peut pas se permettre de jouer à son plein potentiel, sinon ça se sentirait, ça mettrait encore plus en évidence que les autres sont pourris, quoi. Enfin, bon, voilà, il y a ça. Et du coup, ouais, il y a un regard assez critique de la série sur un univers qui est moisi, quoi. Enfin, franchement, c'est un univers de merde, quoi. Et encore que les personnages qui sont devant la caméra, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont peut-être pas encore assez fatigués, sont quand même encore pleins d'entrain, pleins d'énergie, etc. Alors que je pense que, de façon réaliste, entre guillemets, ils devraient déjà avoir un peu commencé à descendre sur la pente glissante. Par contre, c'est quand même illustré par les gens qui sont pas devant la caméra. Alors...
Et à quoi ?
Ouais, oui aussi, mais...
Bah, à quoi qu'il y a aussi les plus blasés aussi,
ouais,
c'est normal.
D'une manière générale, ça dépend le poste, mais on va dire que les agents sont un peu blasés, les producteurs sont semi-blasés, les caméramans sont ultra blasés de fou.
Tous les gens au poste technique sont en mode...
C'est ça.
De toute façon, vivant la retraite.
En fait, il y a une espèce de miroir. Dès que tu passes de l'autre côté, t'es dans les blasés, mais plus tu restes proche de cette limite-là qui te laisse proche des acteurs géographiquement parlant, pire c'est, quoi.
Ouais, les scripts, les gens qui font les prompts,
voilà,
tout ça. Ouais,
c'est...
Non,
voilà, donc enfin, c'est pas mal, franchement.
Et c'est, pour le coup, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et, et c'est des choses auxquelles on peut adhérer assez facilement en termes d'idées, quoi.
Ouais.
Et que, moi, ce que j'aime bien, justement, c'est le ton qui semble over the top, mais qui n'est pas si caricatural que ça par rapport au niveau de blasitude, entre guillemets, des différents parties prenantes.
Ouais. Ok, il y a une dernière thématique super drôle.
Ouais.
Du coup, je pense que tu tenais vraiment à ce que ce soit toi qui la traite, pas
oui,
vrai ?
Oui, parce que j'adore le fun.
Ouais, moi aussi.
Et donc, non, il y a une... je pense que le truc qui a marqué le plus les gens qui ont vu cette série, ça va être la thématique du harcèlement...
Sur les réseaux.
Sur
hein.
les réseaux sociaux. Le
cyberharcèlement. Hein.
Le cyberharcèlement, il y a un personnage qui s'en prend plein la gueule et c'est pas éludé du tout. C'est même montré de façon extrêmement réaliste et glaçante, vraiment. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est plus qu'inspiré, c'est quasiment un copier-coller de l'affaire qui a vu la mort de la catcheuse professionnelle Anna Kimura, qui en fait en mai 2020, s'est ôté la vie à seulement 22 ans. Et en fait, c'est un geste qui avait fait suite à une longue et incessante période de cyberharcèlement qui avait été déclenchée après l'émission de TV-réalité Terrace House, dans laquelle elle avait eu une altercation avec un autre candidat.
Magnifique.
Voilà.
Voilà.
Et ne pas oublier que donc le manga a commencé en 2020, lui aussi. Donc, je pense qu'il y a plus qu'une grosse inspiration.
Pure coïncidence.
Non. Alors clairement, l'auteur, il s'est même pas caché.
C'était sarcastique.
Et en fait, pour le coup, il n'y a pas besoin qu'ici on dise genre le harcèlement, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Je pense que la série fait un excellent travail à montrer les mécanismes de la chose et à montrer à quel point c'est destructeur et injuste.
Ouais. Vous parlez à un référent VHSS, monsieur. Vous prêchez un convaincu.
Ouais, ben, j'ai fait partie d'un CHSCT, donc donc il n'y a pas de souci.
Voilà.
On sort les CV, c'est ça ?
Ouais, c'est parti, ouais. Oui, est-ce que tu as eu à gérer un redressement judiciaire sur ton CV ?
Non, par contre, un redressement... Par contre, j'ai eu à gérer
non,
des cas de harcèlement.
Non, parle pas des autres types de... Ah, si tu me parlais d'autres types de redressement, je ne veux pas savoir.
Non, j'ai eu à gérer un cas de harcèlement dans une ancienne boîte et ouf.
Parfait, c'est génial.
Fun.
Ok, pour parler de trucs un peu plus légers sur les personnages, comme on a l'habitude de faire habituellement. Alors, j'ai pas grand-chose de très très spécifique à dire. Juste que sur les persos principaux, qui donc les protagonistes, on va dire les 2-3 protagonistes de base, plus leur entourage très très proche, on a grosso modo, c'est un peu des archétypes. Alors, je dis ça pas de façon péjorative, hein, c'est-à-dire que le personnage a son rôle et un petit peu son caractère qui fait que voilà, son objectif c'est ça et il va se comporter comme ça. Ça fonctionne bien, je trouve. Si ça avait été vraiment monocaractériel, enfin illustré uniquement par un seul prisme, un seul aspect du caractère de la personne, j'aurais trouvé ça un petit peu naze. Là vraiment, je pense qu'on réfléchit plus en termes d'objectif que de personnalité. Mais je trouve grosso modo que chaque personnage avec son archétype fonctionne bien. Par contre, j'ai pas d'attache particulière à l'un ou l'autre, ni en positif ni en négatif.
Oui, moi non plus. On parle souvent ici de personnages fonction. C'est pas le cas ici.
Ouais. Non, c'est... Quand on dit personnage fonction, je trouve ça très très péjoratif.
Ah oui,
pour
oui
le
non,
coup,
mais justement, quand on parle de ça, nous, c'est très péjoratif. Voilà. C'est bonjour, tu es là pour. Comme j'en parlais hier.
Ah, bonjour, Comic Relief numéro 43. Bonjour, Love Interest numéro 32.
Voilà, bonjour, tu es là pour te faire bâcher par le héros ou par l'héroïne pour lui donner de l'importance pour dire à quel point il est badass.
Ouais.
Et on te reverra plus jamais. Allez, salut.
Bonjour, tu es très 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 fort, tu es là depuis très très longtemps, mais tu vas affronter l'euro et tu vas perdre.
Voilà.
Et tu vas partir en boudant.
Voilà, et tu reviendras plus jamais.
Ah bah non.
À part pour dire, ah oh là là, il est vraiment très fort.
Ah, c'est
en off, en croisant les bras dans les tribunes.
Et en levant les yeux au ciel vers les étoiles, en réfléchissant à son avenir.
Donc non, y a pas, pour le coup, il n'y a pas vraiment de personnages comme ça, à part justement des personnages qu'on va voir uniquement sur un arc, et c'est compréhensible.
Oui, parce que forcément, on voit beaucoup de personnages vu qu'on est sur des lieux de tournage.
Oui.
Voilà,
je pense aux autres acteurs sur la première série ou à certains personnages de télé-réalité, entre guillemets. Mais c'est normal, ils ont été recrutés comme ça. C'est, du coup, je trouve qu'il y a une crédibilité vu que c'est pour ça qu'ils sont là. Enfin, c'est...
Oui.
Ils ont été recrutés dans cette optique-là.
Oui,
donc,
oui, c'est sur les deux plans, en fait. Ils n'ont pas beaucoup d'importance dans ce qu'ils sont en train de tourner et donc, ils n'ont pas beaucoup d'importance dans cette mini partie là de la série. C'est
voilà.
Logique.
Donc c'est pour ça que je trouve, c'est entre guillemets, c'est tout, c'est comme tout. Hein. C'est peu importe ce que tu amènes, si tu l'amènes correctement. Et c'est ça que je trouve la série fait bien. Il amène les choses, elle amène les choses correctement. T'as par exemple le personnage de Kanarima qui, où tu de loin tu dis ok, Tsundere numéro 3800-722. Et en fait, grâce à sa backstory, grâce à justement l'histoire qu'elle peut avoir comment la mise en scène permet qu'on puisse comprendre sa démarche et ce qu'elle peut endurer et comment elle peut réfléchir, tu dis ouais d'accord, en fait je comprends pourquoi
ça. Tu sais comment le personnage en est arrivé là, quoi.
Et du coup tu comprends sa démarche et ce qui fait que bah non, c'est pas tsundere c'est pas une énième tsundere, c'est un personnage en fait qui se protège. c'est pas la même chose.
Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est un peu le cas pour un peu tout. Seul truc que je trouve dommage, c'est pour le personnage de Ruby. J'ai pas de problème avec son personnage, elle, comment elle est et comment elle se comporte, parce que c'est plutôt normal. Elle est pas dans une démarche de vengeance, elle est une démarche plutôt de dommage, on va dire. Mais en fait, c'est plutôt que son arc manque cruellement d'enjeu. Et on sent pourtant que la série veut y apporter quand même beaucoup d'importance, au moins au niveau en termes de temps consacré à ce qu'elle fait et ce qu'elle veut mettre en place. Et que je trouve qu'il y a une certaine dissonance et un creux entre ce qui est montré de la production et le côté finalement assez plan-plan de... on est un groupe d'idoles, il faut s'entraîner, la force des bons sentiments et puis du travail, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bah clairement, on a deux persos principaux vraiment, à partir d'un certain moment de la série, on n'est pas sur du 50-50, en tout cas pour cette première saison. Peut-être que c'est parce que justement en termes de mise en place, il y en a un qui est plus lié à l'enquête, qui est le moteur principal du démarrage de la série. Et donc peut-être que ça va se rééquilibrer plus tard, mais effectivement, pour l'instant, on est plus sur du 70-30 ou du 60-40 que sur du 50-50, quoi.
Oui, fatalement, en plus, les parties étant moins palpitantes, il y a un côté où tu dis, tiens, je sais pas où ils veulent en venir avec ça, mais pour l'instant, ça marche pas des masses.
Voilà, bon, à voir, on va voir où on va aller avec ça. Un petit mot sur la VF, parce que moi, du coup, j'ai regardé la série, donc la saison 1 en version originale sous-titrée. Et d'ailleurs, j'ai commencé la saison 2 en originale sous-titrée aussi. Donc, toi qui as regardé la VF, qu'est-ce que tu as à nous dire?
Alors, la VF, elle est propre. Ils ont fait le choix, pour le coup, d'avoir des de surprendre un peu tout le monde en mettant, comment dire, sans spoiler. On a des voix différentes entre le premier épisode et la suite. Voilà.
Ouais.
Je trouve que c'était une très bonne idée de faire ça parce que les personnages ont subi de très grands changements, on va dire, entre le premier épisode et la suite. Et on aurait pu faire un grand classique de on allège très fort la voix ou on forcit la voix et puis on la change et tout ça.
J'ai changé car j'ai vécu un événement fort dans ma vie.
Et ce qui donne un peu les problématiques qu'on a dans des séries comme Naruto, par exemple.
Ouais.
Ce qui est là, ils ont choisi d'être assez radical là-dessus et de dire bon, ok, il y a tout un casting, désolé, vous ferez qu'un épisode. Et ça marche bien pour le coup, ça fonctionne bien, surtout qu'on a des choix judicieux comme Marie Facondo dans le rôle de Aoi Oshino Et il fallait quelqu'un d'extrêmement solaire, d'extrêmement dynamique, et ça marche bien.
Ouais,
pour le
ouais.
coup, être en sous-jeu là-dessus, ça aurait été dramatique.
Non, non, non.
Ça aurait été dramatique, et c'est pas le cas, et ça marche super bien. Après, voilà, il y a toujours la problématique des séries avec beaucoup de rôles féminins jeunes.
Rôles secondaires, avec... tertiaires.
Ouais, mais et, oui, des fois. Et en fait, le truc, c'est que il y a certaines. T'entends certaines actrices qui s'allègent.
Oui, et leur voix est effacée un peu.
Et ça s'entend, ça s'entend ouais. un peu. C'est pas dramatique comme sur d'autres séries qu'on a pu voir.
Donc, c'est pas level Azuna dans SAO.
Non, non, c'est pas ce niveau-là.
Le maître étalon, on a le village de Carnet des Gobelins pour la 3D dans Overlord, et on a la VF de Kirito et Asuna dans
ouais,
les salons.
Ouais. Pour le côté, on a 40 ans et on joue des personnages de 15, quoi.
Ouais, ouais.
Mais disons que là, ça s'entend un peu, pas énormément, mais c'est plus le fait qu'il y ait beaucoup de personnages qui fait que t'as forcément ce genre de choses.
Parce qu'il y a une distribution de plusieurs rôles, du coup.
En fait, le truc, c'est que forcément, comme on le dit, à chaque arc, t'ajoutes plein de nouveaux acteurs parce que
une nouvelle série, elle est 15 persos de plus, c'est parti.
Et ce sera pareil, hein, j'imagine que la saison 2 sera pareil, des gens qui voilà.
Ouais.
Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de trouver à chaque fois des gens avec le bon âge et le bon timbre. Rebalancer ça, l'actrice qui joue le rôle de Akane. Akane, elle est jouée par Claire Kilishini. Et à un moment, elle est censée reprendre les intonations de Aoi Yoshino.
Oui. Ah oui.
Et en VF, c'est bluffant. C'est bluffant, c'est impressionnant. J'ai cru qu'ils avaient rappelé. J'ai cru qu'ils avaient rappelé Marie Facundo pour ça, mais non, c'est bien elle qui l'imite et c'est super bien.
Pas mal, pas mal, intéressant.
Et je trouve que c'est bravo à l'actrice et surtout. Bravo directeur
artistique,
parce qu'il a fallu faire, je pense, un bon boulot pour que ça fonctionne aussi.
Ok.
Je te laisse conclure. Qu'est-ce que tu dirais sur la série globalement ?
Je trouve que c'est une série qui est pas mal. Moi, j'en ai entendu parler via la communication autour de la série, parce que forcément, elle a fait pas mal de bruit. Notamment, j'ai un magazine spécialisé qui a une image de AI en couverture.
D'Aoi.
De Ai.
C'est Ai Yoshino. C'est vrai que je dis Ai Yoshino, c'est vrai que je dis Aoi.
Et franchement, c'était rafraîchissant. C'est vrai que je regarde pas beaucoup de séries qui tournent autour des idoles, de manière générale. Je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ont aussi ce prisme un petit peu amélioratif. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, bisounours. C'était cool d'avoir une série un peu critique sur cette industrie peu dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Et en plus, du coup, avec des...
C'est l'exploitation de mineurs, ça va.
Voilà, c'est bien. Ouais, et du coup, forcément, il y a des enjeux, il y a des passages, il y a des scènes, des trucs comme ça, des trucs que je vois pas forcément dans les séries qu'on regarde un petit peu plus souvent, plus habituellement. Donc, c'était bien rafraîchissant. Je la classerai pas dans mes chouchous absolus. Mais elle m'a vraiment bien convaincu sur la saison 1, donc j'ai des attentes assez élevées pour la saison 2 et pour éventuellement la suite, parce que voilà, comme on le pressent, c'est peut-être pas sur la saison 2 que ça va se terminer.
Sachant que voilà, le manga est encore en cours, il sort depuis 2020, donc je pense pas que la saison 2 suffira pour terminer, pour boucler.
Et donc voilà, donc je pense qu'il y a moyen que ça vienne se positionner assez bien dans mon classement des séries, si tant est que j'en mette un jour, tu vois, quand j'en hiérarchise un réellement. Mais franchement, je suis quand même assez optimiste pour la suite et j'ai des bonnes attentes. Donc clairement, on n'est pas sur une série où je me suis dit « Ouais, sympa », puis voilà, après bon, je passe à la suite, je passe à autre chose et j'y pense plus, quoi. Il y a moyen que ça fasse, que ça donne quelque chose de bien.
Ouais. Je trouve que c'est une série qui brille par l'originalité de la thématique choisie. C'est-à-dire qu'une série sur le showbiz, on a vu quelques-uns, mais des fois, il y avait un côté assez superficiel. Là, on est sur un côté vraiment... on creuse et on n'hésite pas à égratigner. On l'avait déjà vu sur d'autres séries, mais de façon plutôt parodique. Là, on est sur quelque chose assez serious business quand même. Et je trouve surtout que le ton employé est vraiment très juste et, je ne vais pas dire réaliste, mais en tout cas, crédible. Très crédible. Ouais. Et c'est ça, moi, qui fait l'intérêt de la série. plus que le côté enquête qui, en vrai, moi, me passionne pas plus que ça.
Bah, c'est-à-dire plus... que pour l'instant, si je compare avec des animés avec des enquêtes qui m'ont bien pris au trip, là, on est très très loin d'un E-Rise, par exemple.
Oui. Oui, oui, c'est pour ça. Moi, je suis en mode, oui, non, mais vas-y, continue ton enquête. De toute façon, c'est pas pour ça que je suis là. Moi, je suis vraiment plus là pour... je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous exposer et en savoir plus sur les moyens de production japonais, sur comment les choses, comment les choses fonctionnent. J'ai déjà regardé d'autres séries qui étaient, pour le coup, qui avaient des arcs narratifs assez faibles, mais qui montraient très bien aussi les dessous. Typiquement des séries comme Shirobako, ce genre de choses. Je trouve que c'est toujours intéressant, et c'est ça que je trouve que vraiment très intéressant. Et le fait d'avoir en plus des arcs narratifs autour fait que mon intérêt pour la série est assez grand. Moi, j'attends effectivement avec impatience la saison 2, et si je ne l'ai pas regardée, c'est tout simplement que la VF n'a pas été produite et qu'elle est censée être produite là, fin 2024, début 2025.
Ouais. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. J'en rajouterai un petit truc, c'est que je suis d'accord pour le fait que l'enquête, finalement, quand tu es plongé dans la série, est peut-être assez secondaire, mais moi, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un truc qui soit fait avec, qui soit résolu, quoi. Parce que bah, c'était un peu le démarrage du truc et ce serait un peu facile de me dire « Ah, quoi l'enquête que, quoi non ?» Voilà. Donc j'attends quand même qu'ils en fassent quelque chose.
Bon, on verra ça.
Ouais, on verra ça. C'est ainsi que se termine ce 287... Ah non, je confondais avec ton âge. 20e épisode du format canonique.
L'âge, c'est 20 aussi.
20. Ah oui, tu es en écriture scientifique. 20 x 10 puissance 3, c'est ça? Non, voilà, 20e épisode canonique, hein, parce qu'en termes de nombre de pistes produites, on en est bien plus que 20. Du podcast Le Samouraï et la Soubrette. On espère que ça vous a plu. Je pense qu'on va trouver un petit extrait ou deux de VF à positionner à la fin de la piste, si j'oublie pas cette fois, parce que peut-être que sur la saison 4 d'Overlord, il y a eu un petit accident, peut-être que c'était le fait que l'épisode il a mis un an à sortir aussi, je sais pas. Voilà.
Et ben voilà, juste après cet enregistrement, on va le choisir là, tout de suite.
Ou sinon, on parle, c'est de la VF finalement.
Attends, je coupe là.
Allez. À bientôt.
À 16 ans, elle est considérée comme la vedette du groupe Bikomachi, son pilier inébranlable. La plus belle de toutes les stars, c'est elle. J'ai nommé Ai. Le groupe s'est monté il y a 4 ans. Depuis, elle ne cesse de gagner en popularité. Les médias s'intéressent à elle. Aujourd'hui, on dirait que le monde les découvre enfin. Et ce n'est que le début. Ai atteindra bientôt les plus hauts sommets de la gloire.
Ma seule chouchoute, c'est Ai. On a beau avoir le même âge, elle paraît beaucoup plus mature. Et en plus, elle chante et elle danse à la perfection. Et le plus épatant, c'est sa beauté. Si je me réincarne un jour, j'aimerais devenir aussi belle. Alors ça... Oh. C'est secret.
Comment ça, c'est secret? Bon bah, on sait à quoi s'en tenir.